Vous êtes sur RTL.
Bonne journée, Pascal Céline.
RTL Midi,
le 12h,
Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h, c'est donc avec vous, Céline, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une en ce lundi, mobilisation et violence après un week-end marqué par les affrontements à Sainte-Soline entre forces de l'ordre et opposants au projet de méga-bassine. C'est l'acte 10 de la mobilisation contre la réforme des retraites qui se prépare demain. Le gouvernement, lui, cherche à sortir de la crise. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne reçoivent à la mi-journée les cadres de la majorité pour tenter de sortir de l'ornière. On reviendra évidemment sur tous ces sujets tout au long de ce RTL Midi et on s'interrogera notamment sur le maintien de l'ordre et les moyens opposés à ces militants très radicalisés. Dans cette édition également, la grève générale surprise aujourd'hui en Israël, le Liban qui se déchire désormais pour connaître l'heure, et puis du foot avec la suite des éliminatoires pour l'Euro 2024. Les Bleus s'en vont défier l'Irlande ce soir et après leur succès 4-0 face aux Pays-Bas vendredi. C'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Êtes-vous séduit par le jeu de l'équipe de France de football ?
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui à Agen, dans la Creuse, où pour mettre fin au désert médical, c'est un médecin différent venu de toute la France qui vient assurer les consultations chaque semaine. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Nous avons changé d'heure ce week-end. Il fait jour plus tard le soir, mais au fait, quel impact a la lumière sur notre morale et notre santé. Enfin, juste avant 13h, elle avait été midi, vous avez découvert à 8h ce matin le nom de la lauréate du Grand Prix RTL Lire 2023. C'est Gaëlle Nohant pour le Bureau d'éclaircissement des destins. Bernard Lehu viendra nous dire tout le bien qu'il en a pensé.
J'ajoute à tous ces sujets que nous pourrons évoquer avec les auditeurs, qui s'occupe principalement des tâches ménagères à la maison, chez vous, qui passera l'aspirateur, parce que c'est la source de tension numéro 1, écrit le quotidien aujourd'hui en France. Donc vous pourrez nous donner là-dessus votre quotidien.
La météo avec vous, Peggy Broche, aujourd'hui. Bonjour Peggy.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Plus calme ?
Plus calme et un peu plus frais quand même cet après-midi.
Merci Peggy, les prévisions en détail à la fin du journal.
RTL Midi.
C'est l'image du week-end et elle risque de faire date. Cette pluie de grenades et de projectiles à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, où opposants au projet de méga-bassine et forces de l'ordre se sont violemment affrontés. Un manifestant est toujours entre la vie et la mort. 7 ont été pris en charge par les secours, d'après le parquet, quand les organisateurs, eux, parlent de 200 manifestants blessés. 47 gendarmes ont également été blessés. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
Les forces de l'ordre qui ont procédé à 2 interpellations.
Exactement, 2 personnes qui ont été interpellées pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Leur garde à vue est toujours en cours à l'heure qu'il est. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Niort. Organisation de manifestations interdites, violences aggravées sur militaires ou encore destruction de biens. S'ouvre maintenant une phase judiciaire plus longue, retrouver les auteurs. Pour cela, la justice pourra s'appuyer sur toutes les vidéos qui ont été tournées, sur un travail de renseignement et de témoignage, mais aussi sur un nouvel outil toujours en cours d'expérimentation, le produit marquant codé, un gros fusil jaune qui disperse ce produit chimique incolore et inodore qui se répand sur les vêtements. Il permet, à l'aide d'un révélateur, de prouver qu'un manifestant était bien présent sur un lieu d'affrontement. En parallèle, le parquet de Niort a également indiqué que des enquêtes étaient ouvertes également pour rechercher les causes des blessures de certains manifestants.
Guillaume Chiez pour RTL, on reviendra sur le difficile maintien de l'ordre lors de ces manifestations à 12h40 avec Maxime Lévy.
Et après ces affrontements, la France insoumise demande une commission d'enquête parlementaire.
C'est la députée Clémence Guettet qui l'a annoncé ce matin sur RTL, députée LFI qui participait, elle, ce week-end à cette manifestation interdite parce que la cause est juste, a-t-elle expliqué. Clémence Guettet qui dit donc qu'elle va réclamer une commission d'enquête parlementaire. Les insoumis sont coutumiers du fait, Marie-Bénédicte Allaire, mais le peuvent-ils vraiment ?
Non, pas dans l'immédiat, parce que LFI a déjà une commission d'enquête parlementaire en cours sur le scandale des Uber Files et la règle, c'est pas plus d'une commission d'enquête par groupe politique et par an. Alors les insoumis pourraient toujours se mettre d'accord avec un autre groupe de la NUPES qui, lui, n'aurait pas encore épuisé son droit de tirage pour l'année. On verra ce qu'il en est. Mais il y a quelques jours, effectivement, Mathilde Panot annonçait aussi qu'elle demanderait une nouvelle commission d'enquête sur la façon dont la majorité aurait exercé des pressions ou fait des promesses à des parlementaires de droite pour obtenir leur vote lors de la réforme des retraites. Annoncer des commissions d'enquête parlementaire à tout va est donc peut-être aussi une tactique de leur part, même s'ils savent qu'elles n'ont aucune aucune chance d'aboutir.
Marie-Bénédicte Allaire, la politique, ce sont aussi les résultats du premier tour de la législative partielle en Ariège. La députée sortante LFI Bénédicte Taurine est qualifiée pour le second tour avec 31% des voix. Elle y affrontera la dissidente socialiste Martine Froger, 26%. Désillusion pour la candidate de la majorité qui n'accède pas cette fois au second tour. Anne-Sophie Tribune recueille que 10,7% des voix. C'est une chute de 9 points par rapport au premier tour en juin 2022. La candidate de la majorité qui a peut-être fait les frais du climat social, climat d'opposition à la réforme des retraites. L'acte 10 de la mobilisation contre le texte aura lieu demain avec encore de fortes perturbations à prévoir et notamment dans les transports.
RTL Midi.
C'est une première et elle pourrait faire jurisprudence. Le cancer du sein d'une ancienne infirmière vient d'être reconnu maladie professionnelle.
Et plus que les produits avec lesquels elle a pu être en contact à l'hôpital, ce sont ses horaires décalés, son travail de nuit qui sont pointés du doigt à Gatlandais.
Oui, car les conclusions du médecin expert qui s'est chargé de son dossier sont sans appel. Je cite « Il existe bien un lien direct et essentiel entre le cancer du sein dont elle est victime et le travail qu'elle a effectué auparavant ». Pour prononcer ce verdict, il s'est appuyé sur plusieurs avis de sociétés savantes. Celui de l'INSERM d'abord, qui confirme que le travail de nuit répété augmente chez les femmes le risque de développer un cancer du sein. Il y a aussi cet avis de l'INRS qui pointe lui les risques associés au changement d'horaire. Selon ces chercheurs, le fait de travailler un coup de jour et un coup de nuit perturbe le rythme biologique et hormonal. Résultat, l'organisme est déstabilisé et sécrète moins de mélatonine, un anticancérigène naturel. Grâce à cette reconnaissance comme maladie professionnelle, cette infirmière aujourd'hui à la retraite pourra être mieux indemnisée et tous ses frais médicaux seront pris en charge par l'assurance maladie. Les syndicats saluent cette décision et espèrent qu'elle fera jurisprudence.
Agathe Landais pour RTL.
Grève générale surprise aujourd'hui et c'est en Israël.
Les manifestants exigent l'arrêt du projet de réforme de la justice porté par Benjamin Netanyahou. Déjà hier soir, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer le limogeage du ministre de la Défense qui avait plaidé publiquement pour une pause dans cette réforme portée par le Premier ministre. Le texte veut en fait renforcer le pouvoir des élus sur celui des juges. On y revient dans le journal de 12h30.
Au Liban, on ne se demande plus comment ça va, mais plutôt quelle heure est-il ?
Le pays, déjà plongé, vous le savez, dans une crise politique et économique, se déchire en effet maintenant sur le passage à l'heure d'été. Une partie du gouvernement veut le reporter, l'autre non. À l'arrivée,
comme en France.
Alors, c'est pas, non, pas tout à fait, parce que je ne vous demande pas là s'il est midi 7 ou 13h07, Pascal, vous le savez. Mmh. Au Liban, c'est beaucoup plus compliqué, vous allez le comprendre, notamment dans les aéroports, dans les gares. Des situations ubuesques à tout bout de champ. Monique Younes vient de joindre Rita, qui dirige l'espace culturel Villa Paradisio à Batrounst, au nord de Beyrouth.
Ça a répercuté au niveau social, au niveau politique, au niveau même religieux. Les chrétiens, pratiquement presque tous, ne respectent que le nouvel horaire. Pour les musulmans, moitié-moitié. Vous savez, on est en crise. Si on veut aller acheter un truc, on ne sait pas si selon le nouvel horaire ou l'ancien horaire. L'armée libanaise, par exemple, a opté pour l'horaire d'hiver. Le ministre de l'Éducation a opté pour l'horaire d'été. Ce qui s'est passé, c'est que chaque association ou syndicat a pris une décision. On est un peu alarmé. C'est le chaos total. Voilà.
Les propos recueillis pour RTL par Monique Younes.
Et puis du football ce soir avec la suite des éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus seront en Irlande ce soir. C'était une démonstration vendredi. Je pense qu'on a une équipe de France pour 10 ans qui va être magnifique.
Voilà, c'est déjà la réponse à la question du jour qu'on vous pose. Je vous le rappelle sur le site RTL.fr. Êtes-vous séduit par le jeu des Bleus 4-0, vous le disiez Pascal.
Les joueurs, on a une génération exceptionnelle.
On peut donner l'horaire du match de ce soir ?
Bien sûr.
Ce sera 20h45 en Irlande. Ce sera à suivre, évidemment, Pascal, sur RTL, dans RTL Foot, dès 20h40. La météo, Peggy Broche, le jeu des Bleus est formidable. Qu'en est-il du temps ?
Le temps est beaucoup plus calme qu'hier déjà. C'est beaucoup moins agité. On a ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies et encore quelques averses. Alors on peut avoir cet après-midi quelques gouttes ici ou là sur le nord-est par exemple, entre la Bretagne et le Cotentin, au sud de la Garonne également. On a aussi de la neige, alors pas grand-chose, mais quelques flocons à basse altitude sur les reliefs de l'est, des 400-600 mètres. Attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes. Il a beaucoup neigé neigé la nuit dernière. Et puis on a quelques flocons également sur les Pyrénées, des 1400 mètres. En revanche, c'est très beau entre la Méditerranée et la Corse. Ça souffle encore, hein, Mistral et Tramontane souffle encore, mais beaucoup moins. On a du vent jusqu'à 80, des rafales jusqu'à 80 km/h. Tout ça sous des températures du coup qui sont en baisse, qui sont un peu fraîches par endroits. 7 degrés seulement cet après-midi à Langres, 9 à Nancy, 11 à Lyon, 12 à Paris et Limoges, 14 à La Rochelle, 15 à Toulouse, 16 à Bordeaux, 17 à Marseille, 19 à Montpellier et 20 à Bastia.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Chaque jour l'info plus près de vous avec cette question: comment lutter contre les déserts médicaux ?
En Creuse, la commune d'Agen a trouvé une solution depuis 5 mois. Elle est au cœur d'un projet unique en France porté par le mouvement citoyen Balance ton coq. Des médecins venus de tout l'Hexagone se relaient donc chaque semaine pour soigner les habitants. Bonjour Guillaume Frixon.
Bonjour Céline, bonjour Pascal et bonjour à tous.
L'objectif, il est simple: parer la désertification médicale et rendre le soin de nouveau accessible.
Oui, exactement. Le centre médical est installé dans de simples algécos au cœur du village, et qu'il soit d'Île-de-France, d'Alsace, du Vaucluse, qu'importe. Ici, ce sont près de 40 médecins environ qui se sont relayés le temps d'une semaine à chaque fois. Alors si vous tendez le micro aux habitants après 2 années passées sans médecin, bien évidemment, c'est le grand soulagement. Écoutez Michel, la boulangère.
On n'a pas besoin d'aller voir un vétérinaire, on a le toubib sur place. Parce que quand vous avez besoin d'un toubib, vous ne pouvez pas le prévoir 6 mois à l'avance.
Alors ce jour-là, c'est Sophie Robin, venue de Nantes, qui se charge des consultations. Elle est logée par l'association. Et même si elle est 2 fois moins payée environ que dans un cabinet classique pour elle, ce projet solidaire est loin d'être un casse-tête.
On ne fait pas tous forcément pareil. Il y en a qui font peut-être plus de gynéco, il y en a qui vont pouvoir faire des infiltrations alors que d'autres n'en font pas. Sur l'année, je pense qu'il y aura plein d'expériences différentes.
En changeant chaque semaine, c'est quand même la fin du modèle traditionnel du médecin de famille qui avait un regard sur le suivi des soins, non ?
Oui, vous faites sans doute référence à ceux qui ont des maladies chroniques ou un peu plus lourdes. Eh bien, cette organisation, elle a fait de cette apparente faiblesse une force, comme l'explique le docteur Martial Jardel, il est le cofondateur du projet.
Puisque ce sont des médecins solidaires, chaque médecin a vraiment à cœur de bien remplir le dossier pour que le médecin qui vient ensuite puisse bien comprendre le cas du patient en question.
Alors évidemment, pour que ça fonctionne au mieux, les médecins s'appuient énormément sur les 2 coordinatrices qui gèrent les rendez-vous. C'est le cas notamment de Joanne Chevalier.
Lui, il va juste avoir à s'occuper de la consultation du patient. On va faire tout ce qui est administratif.
Et on imagine, Guillaume, que le téléphone du centre doit chauffer depuis fin novembre.
Ah oui, à tel point qu'à l'heure où on se parle, il y a près de 650 personnes qui ont déclaré ce centre médical d'Agen comme leur nouveau médecin traitant. Et avec, vous l'aurez compris, un esprit beaucoup plus apaisé.
Ah, ça change tout, oui. Parce qu'on est moins inquiet. Et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'ils vont pouvoir développer et faire d'autres centres ailleurs.
L'idée est donc bien de dupliquer ce modèle partout en France. C'est d'ailleurs les médecins qui auraient envie de donner de leur temps à cette belle action. Eh bien, ils peuvent s'inscrire sur le site internet pour se faire connaître. Le site internet, je vous le donne, c'est médecin-solidaire.fr.
Guillaume Frixon à Agen, donc dans la Creuse pour RTL.
Renouer le contact, c'est l'objectif. Gouvernement, syndicat, manifestant, on en parle avec Marie-Bénédicte Allaire au moment où le président de la République s'entretient avec la première ministre. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi.
Emmanuel Macron s'entretient actuellement avec sa première ministre Elisabeth Borne, comme chaque lundi, me direz-vous. Mais aujourd'hui, les cadres de la majorité sont aussi conviés pour poursuivre l'échange. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
La première ministre qui hier soir a accordé un entretien à nos confrères de l'agence France Presse pour donner, elle aussi, des perspectives, fixer un cadre pour les semaines ou mois à venir. Marie-Bénédicte, elle montre en fait qu'elle veut vraiment rester à Matignon, Elisabeth Borne.
Bah oui, cette interview, c'est une façon de montrer qu'elle a un plan d'action, qu'elle est au travail avec la majorité, avec l'opposition, avec les élus locaux, les syndicats. Bref, faire savoir qu'elle ne se sent pas du tout hors course et qu'elle se donne tous les moyens pour rebondir. Et on peut dire que c'est avant tout un message qu'elle adresse au président Emmanuel Macron et puis à ceux qui, dans la majorité, aimeraient lui voir tourner les talons. Parce qu'un changement de gouvernement, ça peut être une option pour relancer le quinquennat. Eh bien, elle veut prouver le contraire.
Alors, parmi les annonces, il y a ce vœu pieux, maître de l'apaisement. Mais ça ne se décrète pas. C'est-à-dire, elle va s'y prendre comment ?
Ah bah là, c'est principalement à destination des syndicats. Hein. Elle leur dit, voilà, on va changer de méthode. Désormais, c'est vous qui aurez l'initiative sur un certain nombre de sujets. Alors, c'est vrai, il y en a qui n'ont pas été suffisamment traités avec la réforme des retraites, comme la pénibilité, le travail des seniors, etc. Eh bien, saisissez-vous-en et nous, on traduira fidèlement dans la loi les accords que vous aurez passés. Alors, certes, c'est une proposition alléchante, sauf que les syndicats sont arc-boutés sur les 64 ans dans la réforme des retraites. Et qu'à ce stade, bah, ils n'ont pas l'air de pouvoir tourner la page.
On est d'accord qu'on ne remet pas en cause ce qui vient de se passer pour Elisabeth Borne. Donc c'est étonnant de dire « je vous écoute, mais on ne remet rien en cause
bah, ». C'est un peu ce qu'a fait Emmanuel Macron jeudi à la télévision. Hein.
Avec les conséquences et les résultats qu'on a vus le lendemain.
Voilà, c'est pour ça qu'on peut se poser des questions.
Pas de remise en cause de ce qui a été fait. Une petite phrase quand même qui fait beaucoup réagir. Marie-Bénédicte, la première ministre, assure qu'elle ne veut plus avoir recours au 49-3. Enfin, en dehors, et la précision est importante, en dehors des textes budgétaires. Il faut le comprendre comment ?
Bah, là encore, c'est une promesse qui n'engage pas grand-chose et qui paraît alléchante. Mais quand on y regarde de plus près, c'est une autre affaire. Parce que, à part pour les lois de finances, et ça a été le cas pour les retraites, hein, le gouvernement ne peut utiliser le 49-3 qu'une seule fois par session parlementaire. Donc c'est déjà le cas finalement, c'est un usage assez restreint le 49-3.
Donc c'est une façon de prendre un peu les gens pour des imbéciles.
Je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais...
Vous non, certainement pas.
J'essaie de traduire ce que vous dites, Marie-Bénédicte, mais c'est vrai, de dire quelque chose qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on l'a déjà utilisé, c'est un peu prendre les gens pour des imbéciles.
Sérieusement, Marie-Bénédicte Allaire, elle peut survivre à la réforme des retraites, Elisabeth Borne ?
C'était très sérieux.
Écoutez, dans les deux ou trois semaines qui viennent, je pense qu'on peut parier qu'elle sera toujours en poste. Et justement, elle essaie de mettre ce temps à profit. Sa meilleure assurance, finalement, ce serait que le président n'ait pas de solution de rechange. Et puis, beaucoup va aussi dépendre de la décision du Conseil constitutionnel
hein, oui.
qui est attendue pour entre maintenant et mettons le 20 avril. Si la loi est totalement retoquée, bah, le bail d'Elisabeth Borne à Matignon...
Oui, complètement retoqué.
C'est possible. Il y a des constitutionnalistes qui le pensent sérieusement. Ouais.
Parce qu'on a fait passer cette loi dans la loi budget, ce qui serait anticonstitutionnel. Je fais vite.
C'est-à-dire que l'argument, c'est qu'effectivement, ce n'est pas les bonnes conditions pour étudier un projet de cet ordre-là. Ouais. Et donc, effectivement, si la loi était complètement retoquée, ben là, on peut penser que son bail à Matignon serait d'assez courte durée.
Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire, on suivra ça avec vous et puis on suivra évidemment l'ampleur de la mobilisation pour cet acte 10 annoncé demain dans tout le pays.
Dans un instant, RTL Midi, votre vie, on va parler de l'heure d'été. C'était comment ce matin chez vous ?
C'était calme, j'étais la seule réveillée, c'est ça la question ?
Non, mais vous êtes couché plus tôt hier soir ?
Vous êtes bien curieux.
Vous avez réussi à vous endormir, je déteste moi l'heure d'été, mais bon, je voulais savoir si vous l'aimiez bien.
Je préfère quand il fait jour, tôt le matin quand je me lève, c'était moins le cas ce matin.
Bon, donc ce matin, vous... Ah oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous.
On est souvent d'accord finalement.
On est tout le temps d'accord. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi, votre vie.
L'info, c'est ce qui fait votre quotidien, vous le savez. Et donc, le soleil est présent, c'est ce que je comprends par cette chanson.
Plus tard le soir, Pascal, effectivement, puisque ouais. Le changement d'heure est intervenu ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Passage à l'heure d'été pour en parler avec nous, Karen Elbaz, chronobiologiste. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour Pascal.
Bonjour.
On a voulu parler de l'impact de la lumière sur notre santé et notre morale avec vous, puisqu'il fait jour plus tard le soir. Hein, c'est la conséquence directe du changement d'heure. Est-ce que ça a un véritable impact physiologique sur nous ?
Oui, le changement d'heure a un véritable impact physiologique, puisque on a des horloges biologiques internes. On sait que certaines fonctions au sein de notre organisme sont régulées. On a une détox hépatique maximale à 3h du matin. On a une synthèse...
Pour les non-initiés, ça veut dire quoi, détox hépatique maximale ?
La détoxication du foie, c'est là que le foie a son pic d'activité.
D'accord.
La synthèse de la mélatonine, l'hormone du sommeil, commence à 9h pour avoir un pic d'activité à 3h du matin. Tout ça... Ce sont des exemples parmi tant d'autres de rythmes internes qui sont conditionnés par des signaux, par des donneurs d'ordre externes.
Qui passent par les yeux, c'est ça? Par exemple, par la lumière qu'on...
Notamment.
Mais il y a plus notamment de lumière, là, à votre avis, que l'heure d'été, une personne qui se lève normalement, par exemple, à 7 heures du matin, va avoir plus de lumière globalement qu'avec l'heure d'hiver?
Alors, elle a moins de lumière le matin.
Ben oui.
La lumière le matin stimule la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui, c'est un neurotransmetteur qui nous dope, qui fait qu'on est plus attentif, plus concentré, plus motivé, qu'on a plus la pêche. Donc, il va falloir lutter contre cette baisse de luminosité matinale. Il y a des solutions qu'on peut déployer, qu'on peut mettre en place pour pallier aux effets délétères du manque de lumière le matin et pour pallier aussi aux effets délétères du fait qu'on dort un petit peu moins.
Bah on a oui, une tête en sommeil ça, d'une heure. C'est plus simple que ça. C'est-à-dire
tout
qu'on
à
dort
fait.
Une heure de moins ce matin. Pour ceux qui se lèvent tôt sont évidemment fatigués aujourd'hui. Ceux qui se lèvent plus tard, bah, ils ont moins de problèmes forcément. Mais les gens qui se lèvent à 6h, 7h du matin, ça doit être rude pendant au moins, je sais pas, d'abord combien de jours? Ça va être rude combien de jours?
Alors, il y a une variabilité individuelle. Il faut savoir qu'il y a des personnes plus sensibles. Les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes fragiles. D'une manière générale, pour un individu lambda, ça peut être difficile pendant 1 à 3 semaines.
Ah, quand même ?
Oui, quand
pour
même.
Pour 1 heure, 3 semaines ? Mais oui, pourtant, on se couche plus tôt.
Alors, c'est une des solutions. Là, vous venez d'évoquer une des solutions qui est intéressante pour justement pallier à ce manque de sommeil.
Mécaniquement, on se couche plus tôt.
Se coucher plus tôt, mais même mécaniquement et avancer de façon proactive son heure de coucher peut-être d'un quart d'heure. Essayer de mettre en place...
Oui, de se coucher encore plus tôt.
Encore plus tôt, oui, parce qu'il faut pallier à cette dette de sommeil d'une heure. Donc c'est mécanique, c'est mathématique. Donc développer des rituels autour du sommeil pour favoriser un endormissement plus précoce, mais également des rituels le matin pour avoir davantage la pêche.
Vous disiez que la lumière tôt le matin aidait à se mettre en route, à être plus concentré. Oui. Est-ce que si je me lève à la même heure, mais que le soleil n'est pas levé, si j'allume la lumière artificielle dans ma cuisine, par exemple, au moment du petit déjeuner, est-ce que ça peut compenser?
Très bonne question, mais la réponse est non. Alors, les solutions... Pardon, oui, exactement, Pascal. La réponse est non, mais les solutions qu'on met en place, notamment pour les patients très sensibles au manque de lumière, c'est de la luminothérapie. Donc, il faut acheter un appareil adapté qui permet d'envoyer de la lumière pendant 20 minutes. Vous pouvez également faire un petit déjeuner protéiné qui va stimuler la dopamine, cette hormone qui manque quand on a moins de lumière et qui va vous permettre de retrouver la pêche beaucoup plus rapidement.
Donc, les œufs ou le jambon blanc remplacent le soleil?
Oui.
En quelque sorte.
La chronobiologiste que vous êtes, on est maintenant en décalage de 2 heures sur le soleil, nous sommes d'accord, 2 heures. Oui. Est-ce que globalement vous diriez que c'est une bonne chose ou globalement que ce n'est pas une bonne chose?
C'est une chose que nous subissons de toute façon. Donc,
oui, mais c'est pas ma question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que cette heure d'été, certains ne la supportent pas. Donc je voulais votre avis.
On est un petit peu en décalage, mais on a quand même une capacité d'adaptation qui est importante. C'est pas très grave et on a surtout des solutions qu'on peut déployer pour mieux s'adapter. Notamment ce que je viens d'évoquer et plein d'autres rituels qui nous permettent de pallier effectivement à ce décalage qui devient un petit peu conséquent.
Eh ben merci beaucoup Madame Elbaz. Et puis moi ce que je vous propose c'est de vous retrouver le 29 octobre à peu près, puisque chaque année, fin octobre et fin mars, c'est ce qu'on appelle un marronnier dans le terme journalistique, mais en même temps c'est la vie des uns et des autres. Et donc il faut parler de cela parce que je sais que ça intéresse nos auditeurs et tout à l'heure ils nous appelleront sur l'heure d'été, l'heure d'hiver. Combien ça a été peut-être plus difficile ce matin pour se lever? Le réveil, ça piquait, comme on dit. Merci beaucoup, Madame Elbaz.
Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et bonne adaptation.
Alors, en revanche, il est 12h28. Alors, la semaine dernière, par exemple, à cette heure-là, ben, il n'était qu'à 11h28. Eh oui.
À cette heure-là, il était la même heure, je crois.
Exactement.
Si je peux me permettre. Mais je vous en
prie. J'aime bien, tu sais, les gens que tu croises le dimanche. Il est 11h, mais ancienne heure, il est 10h. Bon. Donc, il est 12h28. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi,
le 12h30. 12h30,
Céline Landreau et Pascal Pro.
L'heure de votre grande édition de la mi-journée, Céline.
Avec l'acte 10 de la mobilisation contre la réforme des retraites, demain, et le gouvernement qui tente de sortir de la crise. Les cadres de la majorité sont invités à l'Élysée actuellement pour réfléchir à l'après. L'autre sujet du moment, c'est bien sûr la violence des affrontements. C'était marquant samedi à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres entre opposants au projet de méga-bassine et forces de l'ordre. D'où cette question: quel maintien de l'ordre aujourd'hui en France face à des éléments radicalisés? Au-delà des violences, la grande question dans les Deux-Sèvres, c'est évidemment la gestion de l'eau. On verra avec Virginie Garin sur quel rapport scientifique s'affrontent les pour et les anti-bassines. À suivre également cette grève générale surprise en Israël contre la réforme de la justice, et puis du foot avec la suite des éliminatoires pour l'Euro 2024, Irlande-France ce soir. Et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr après la démonstration des joueurs de Didier Deschamps vendredi soir face aux Pays-Bas. Êtes-vous séduit par le jeu de cette équipe de France de football? Juste avant 13h, vous le savez, c'est votre rendez-vous culture LVT Midi avec aujourd'hui le Grand Prix RTL Lire 2023 qui est décerné à Gaël Nohant pour le Bureau d'éclaircissement des destins.
France au bord de la crise de nerfs, ce sera un de nos sujets au 32-10 à partir de 13h avec les auditeurs.
La météo, c'est avec vous Peggy Broche aujourd'hui. Là, c'est plutôt apaisé.
Oui, c'est vrai que c'est un temps plus calme, mais aussi plus frais, surtout au nord.
Merci Peggy, les détails à la fin du journal.
RTL Midi.
Ce sera donc l'acte 10. Demain, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Nouvelle journée de grève avec des perturbations attendues, notamment dans les transports. Mais sans attendre les défilés et cortèges, les blocages se poursuivent aujourd'hui par endroits. C'est le cas notamment à l'université Paris-Dauphine à Paris. Lucas et Julie font partie des bloqueurs.
Symboliquement, c'est assez fort de bloquer Dauphine, qui est une université qui a été bloquée une seule fois et pendant quelques heures en 2020, il me semble.
Mais qu'est-ce que ça va changer de bloquer la fac alors ?
C'est justement parce que on sait plus quoi faire précisément qu'on est en train de bloquer. C'est un peu un dernier recours.
C'est un impact au moins dans les esprits, quoi.
Sur la fiche qu'il y a devant nous, il y a marqué même Dauphine, puisque c'est une université qui forme au métier de la finance.
Et c'est aussi une université qui a une culture politique qui est plus orientée à droite, en tout cas vers une certaine forme de libéralisme. Donc c'est aussi pour marquer cet événement qui est assez exceptionnel et qui montre aussi la gravité de la situation.
Un propos recueilli pour RTL par Julien Fautra.
Comment maintenant sortir de l'impasse? C'est la question du moment dans les rangs de la majorité.
Ces chefs de file sont reçus à l'Élysée à la mi-journée où l'on vous retrouve. Thomas Després, bonjour.
Bonjour.
Les chefs de la majorité donc réunis autour d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne avec une mission, Thomas, sortir de l'ornière retraite et réussir à passer à autre chose.
Oui, en tout cas, essayer. Et c'est pour ça qu'Elisabeth Borne va présenter ce midi sa feuille de route sous le regard attentif d'un président de la République qui l'attend au tournant. Des consultations à tout va, un agenda bousculé, des rendez-vous même avec les groupes d'opposition, avec un objectif martelé à chaque occasion: élargir la majorité. Ça tombe bien, c'est la mission que lui a confiée Emmanuel Macron lors de son interview la semaine dernière. On attend donc ce midi tout ce que la Macronie compte de ministres influents et de chapeaux à plumes pour ce qui sera aussi une séquence de communication, une mise en scène pour montrer que tout le monde se prépare à la suite et que le pays n'est pas à l'arrêt, même si beaucoup s'accordent à dire que cet élargissement, c'est une mission quasi impossible. À gauche, on jure que rien ne sera possible sans le retrait de la réforme. À droite, Éric Ciotti a déjà fermé la porte à un accord de gouvernement. Alors, comment faire? Elisabeth Borne a 3 semaines pour répondre à la question et par là même pour sauver sa place à Matignon.
Thomas Després à l'Élysée pour RTL.
Et tout cela, on le répète, alors que l'acte 10 de la mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu demain.
Avec encore une fois des perturbations dans les transports, ce sera par exemple très compliqué en région parisienne sur les RER. D'ici là, dans les raffineries, la mobilisation perdure avec toujours des pénuries de carburant marquées dans le nord-ouest et le sud-est du pays. Et la suite du mouvement pourrait bien se jouer aussi à Clermont-Ferrand, car c'est dans cette ville d'Auvergne que se réunit toute la semaine la CGT pour son 53e congrès et pour choisir Martial Liu, le successeur de Philippe Martinez.
Oui, et c'est pas simple. Philippe Martinez a désigné quelqu'un, Marie Buisson, professeur de lycée professionnel, mais beaucoup de fédérations qui représentent donc les grands corps de métier à la CGT n'en veulent pas. D'abord, pour indiquer à Philippe Martinez qu'il ne valide pas son bilan. La CGT a perdu son statut de premier syndicat du pays au cours du mandat. Il le trouve trop modéré, Philippe Martinez, et sa dauphine aussi. Et c'est vrai que Marie Buisson n'a pas réussi à s'imposer au cours des derniers. derniers mois. Son profil inquiète aussi les barons de la CGT parce qu'elle est écologiste. Une ligne rouge pour les fédérations industrielles du syndicat comme la chimie, les transports, l'automobile. Et en face d'elle, il y a un nom qui circule, celui de Céline Verzelletti, membre de la direction depuis 2015, plus médiatique, plus radicale aussi. Si on s'oriente vers une femme à la tête de la CGT, elle peut sortir du chapeau vendredi. Ce qui est certain, c'est que le conflit qui se radicalise là en ce moment est plutôt favorable à ceux qui militent pour une CGT de combat. Et d'ailleurs, il y a un troisième homme, le seul, qui s'est déclaré, mais qui ne devrait pas aller au bout. C'est Olivier Matteux, le bouillonnant leader de la CGT des Bouches-du-Rhône.
Qu'on a découvert durant cette crise.
Voilà, radical, lui, anti-macroniste, mélenchoniste.
Qui pose avec des portraits de Che Guevara juste derrière voilà. Lui.
Alors lui, il illustre en fait toute l'aile dure du syndicat, mais pour l'instant, sa candidature n'est pas retenue.
Martial Youssef, chef du service économie d'RTL.
Au surlendemain des violents affrontements entre opposants au projet de méga-bassine et forces de l'ordre à Sainte-Soline, un manifestant est toujours entre la vie et la mort.
Au total, 7 manifestants ont été pris en charge par les secours d'après le parquet, quand les organisateurs déplorent, eux, plus de 200 manifestants blessés. En face, les autorités déplorent 47 gendarmes blessés. Mais au-delà des violences que l'on a déjà évoquées, le débat de fond sur place, c'est la gestion de l'eau sur le territoire. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Avec des pour et des anti-bassines qui s'appuient sur une même étude scientifique mais qui n'en font pas la même lecture.
Oui, un rapport du Bureau de recherche géologique minière, organisme public, à qui les promoteurs du projet ont demandé de répondre à la question très simple. Pomper l'eau dans les nappes l'hiver pour alimenter ces grandes retenues aura-t-il un impact sur les cours d'eau ? Eh bien, le Bureau a dit qu'il n'y aurait pas d'impact négatif. Au contraire, le débit des rivières serait supérieur puisqu'on allait moins pomper l'été.
Mais Virginie, ce qui fait tiquer les opposants, c'est que cette étude, elle est ancienne.
Et oui, elle a été faite avec un modèle mathématique dans lequel ont été rentrées des données collectées entre 2000 et 2010. Depuis, les températures ont encore augmenté, la pluviométrie a baissé. Donc la présidente du BRGM, Michèle Rousseau, elle-même, devant le Sénat le 15 mars dernier, l'a confirmé en disant que le rapport de son institut n'avait pas été très bien compris.
On l'a fait avec un modèle qui était calé sur les années 2000-2010, c'était le seul modèle d'ailleurs existant. Nous n'avons pas simulé les conséquences du réchauffement climatique. Et je pense qu'on a ensuite utilisé le rapport du BRGM d'une autre façon. Nous tenons à la disposition du Sénat le rapport. Nous espérons que petit à petit, le contenu du rapport sera mieux compris.
Alors, les agriculteurs répondent qu'ils ont tenu compte eux-mêmes du réchauffement en décidant dans leur projet de moins pomper dans les nappes, un quart en moins que ce qu'ils avaient prévu au départ. En fait, dans ce dossier, il y a des agriculteurs qui ont un besoin vital d'eau car ils pratiquent une agriculture qui est basée sur l'irrigation, mais il y a quand même une incertitude scientifique. Personne ne peut vraiment estimer l'impact de ces bassines à cet endroit dans les conditions climatiques actuelles. On est dans un dialogue qui était compliqué jusque-là et qui, depuis les incidents graves de samedi, est complètement rompu.
Virginie Garin, spécialiste des questions agricoles ici à RTL.
RTL Midi. Grève générale surprise aujourd'hui en Israël contre la réforme de la justice de Benjamin Netanyahou.
Avec des dizaines de milliers de personnes dans la rue, plus aucun avion ne décolle, par exemple actuellement de l'aéroport de Tel Aviv. Bonjour Léo Breuer-Potier.
Bonjour tout le monde.
La grogne couvait depuis plusieurs mois. Léo, elle vient de prendre une autre ampleur. Qu'est-ce qui a déclenché cette grève générale surprise aujourd'hui ?
Eh bien, c'est le limogeage de Yoav Gallant hier soir dans la nuit qui a précipité des milliers de personnes, vous l'entendez, dans les principales rues des villes du pays, Knesset à Jérusalem, l'autoroute à Tel Aviv, des manifestants remontés, car Yoav Gallant, c'est un poids lourd du gouvernement, ministre de la Défense, sanctionné pour avoir publiquement demandé une pause dans la réforme judiciaire, un limogeage qui choque les anciens combattants comme ce manifestant.
J'ai été soldat durant la guerre des six jours. J'ai été blessé durant la guerre de Yom Kippour. Nous nous battons pour un pays démocratique et libéral. Le gouvernement veut promouvoir une théocratie à l'iranienne.
La réforme judiciaire, c'est une série de lois visant à limiter le pouvoir des juges de la Cour suprême sur la vie politique. Benjamin Netanyahou la justifie donc comme une manière de défendre la démocratie. Concrètement, la première de ces lois vise à garantir le poste du Premier ministre, quand bien même celui-ci serait jugé inapte à exercer cette fonction. Faut quand même préciser que Bibi est sous le coup actuellement d'un procès pour corruption. Cela fait donc 3 mois que le gouvernement refuse toute négociation et amène ainsi une nouvelle phase dans la contestation avec cette grève générale. tout va être fermé. Même McDonald's a annoncé la fermeture de toutes ses filiales dans tout le pays. C'est un moment inédit que vit actuellement Israël.
Léo Breuer, policier correspondant d'RTL en Israël.
Le football et les Bleus pour confirmer ce soir en Irlande.
Après leur démonstration vendredi soir, la victoire 4-0 face aux Pays-Bas, l'équipe de France poursuit ses éliminatoires pour l'Euro 2024. Ce sera face aux Irlandais à 20h45. L'équipe de France portée, Philippe, s'enfourche par une douce euphorie.
Oui, depuis une semaine, c'est la douce euphorie. Aucun joueur blessé, pas le moindre embryon de polémique et un succès face aux Pays-Bas qui a cimenté de suite le vestiaire entre diverses générations. Les joueurs se parlent, restent à table pour partager les bons moments, comme l'anniversaire du jeune Khéphren Thuram, 22 ans hier soir.
Merci à tous. Enfin, merci de m'avoir accueilli comme vous l'avez fait.
Difficile de faire plus simple comme contexte pour l'intronisation d'un nouveau capitaine. Kylian Mbappé a juste à observer et se concentrer sur le terrain.
Pour être tout à fait honnête, pour l'instant, mon rôle, il n'a pas servi à grand-chose parce que j'ai vraiment vu un groupe uni tout au long de la semaine. Donc, j'ai pas ressenti le besoin de vraiment faire le lien, d'intervenir parce que le groupe vivait très bien ensemble. J'espère que ça va continuer comme ça. Moins j'ai de travail, ça veut dire que l'équipe se porte très bien et c'est tant mieux pour tout le monde.
Un plaisir communicatif qui donne envie aux supporters d'accompagner ces Bleus. Ils seront 2900 Français ce soir dans les travées de la Viva Stadium.
Philippe Sanfourche, que vous retrouverez au commentaire ce soir aux côtés de Nicolas Georgerot, puisque cette rencontre, elle sera à suivre sur RTL. Le coup d'envoi, c'est 20h45.
Et Peggy a mis le maillot de l'Irlande aujourd'hui.
Vert.
Mais bien sûr.
Bien sûr. J'y ai pensé, j'ai fait exprès ce matin.
Mais c'est, vous savez, si, bien sûr, elle adore le foot, Peggy.
Bien sûr.
Vous avez l'air surpris, Pascal.
Pas du tout.
Mais je suis quand même peut-être plus calée en météo.
Alors allez-y, Veille.
On va y aller. Alors, un ciel de traîne aujourd'hui, généralement, sur l'ensemble du pays. Ça veut dire alternance de nuages, d'éclaircies. Encore quelques petites averses, pas grand-chose cet après-midi, mais notamment sur le nord-est. On a aussi quelques averses au sud de la Garonne, entre la Bretagne et le Cotentin. Attention au risque d'avalanche sur les Alpes du Nord, parce qu'il a beaucoup neigé hier soir. Donc, on a un risque fort. Et on a encore quelques flocons sur les à basse altitude sur les reliefs de l'est. Quelques flocons également sur les Pyrénées à 1400 mètres. Et c'est du très beau temps entre la Méditerranée et la Corse, mais encore avec du vent, même si c'est beaucoup plus faible que ce qu'on a vécu hier et cette nuit. Ça reste assez fort, 80 jusqu'à 80 km/h. Les températures, elles sont en baisse, un peu juste, hein, parfois au nord, avec 9 degrés cet après-midi à Reims, 10 à Cherbourg, ainsi qu'à Grenoble, 12 à Paris et Orléans, 13 à Rennes, 14 à Tarbes, 15 à Cognac, 17 à Marseille, 18 à Nîmes, ainsi qu'à Toulon et 20 degrés à Bastia.
Merci Peggy.
La gestion du maintien de l'ordre, question récurrente depuis quasiment 5 ans, et la découverte des gilets jaunes, on en parle avec Maxime Lévy.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Pro. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
C'est pas le scénario que nous avions écrit. Hein. Comment on peut se satisfaire d'un ministre qui se vante d'avoir arrosé de 4000 explosifs le peuple? La fois prochaine, si c'est nécessaire, on sera encore plus nombreux et on sera encore plus déterminés.
Julien Leguet, porte-parole du collectif Bassine Non Merci, qui réagissait après les violences qui ont émaillé.
Le peuple, c'est des manifestants. Hein. Il est manifestant, il parle au nom du peuple.
C'est le collectif Bassine Non Merci qui.
Non, mais c'est important de le dire parce qu'effectivement, il y a un climat général depuis 2-3 jours que j'entends à droite et à gauche, et notamment dans la presse française, qui est sidérant la manière dont sont rapportés ces événements, disons-le.
Ces événements et ces affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait des blessés, vous le savez, un jeune de 30 ans est toujours entre la vie et la mort. Plus de 200 manifestants blessés d'après les organisateurs, 7 pris en charge par les secours d'après le parquet, 47 gendarmes blessés de l'autre côté. Bonjour Maxime Lévy.
Bonjour.
Le week-end a donc été marqué par ces affrontements à Sainte-Soline. Avant ça, il y avait déjà eu des violences en marge des manifestations jeudi dernier, manifestations cette fois contre la réforme des retraites. On a donc voulu y voir plus clair avec vous sur la stratégie de maintien de l'ordre adoptée. D'abord, en amont, comment les forces de l'ordre anticipent la présence d'éléments radicalisés lors de telles manifestations?
Eh bien, c'est le travail des services du renseignement territorial. Les agents réalisent une veille importante sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les messageries cryptées également, comme Telegram ou Signal, afin de repérer les éléments les plus radicaux, mais également leurs mots d'ordre, ce qu'ils prévoient de faire, si c'est du sabotage, si c'est des violences contre les forces de l'ordre. Ils regardent aussi les manifestations précédentes. Si l'on prend l'exemple des Deux-Sèvres, ils ont étudié ce qu'il s'est passé lors du dernier rassemblement anti-bassine en octobre dernier. Et avec avec toutes ces informations, ils vont pouvoir établir un portrait des manifestants qui vont se rendre en manifestation, établir leur niveau de dangerosité, mais surtout estimer leur nombre en recoupant les différents appels à manifester. Ensuite, sur place, en amont de la manifestation, les forces de l'ordre vont réaliser divers contrôles à la sortie des gares, sur les routes qui mènent aux manifestations, vérifier qu'ils ne possèdent pas d'armes, d'objets illégaux, mais surtout pouvoir se rendre compte de leur niveau de radicalité et donc s'adapter en conséquence.
Et comment le déploiement de moyens est décidé en conséquence? On rappelle qu'il y avait 3200 policiers et gendarmes samedi dans les Deux-Sèvres.
Eh bien, il est fait sur la base des conclusions du renseignement territorial. Il faut savoir combien seront les manifestants et quelles seront leurs radicalités pour s'adapter. Ensuite, c'est un travail conjoint d'ajustement entre la préfecture, l'intérieur et bien sûr les forces de sécurité.
Qu'est-ce qui a basculé la semaine passée, Maxime? Comment on explique que les manifestations précédentes s'étaient bien déroulées et que depuis jeudi, on a une telle explosion de violence?
Eh bien, pendant 3 mois, la réforme des retraites était encore à l'étude et les manifestations étaient exclusivement organisées par l'intersyndicale. C'était des manifestations ultra encadrées par les différents services d'ordre des syndicats et bien sûr les services de sécurité. Il n'y a pas eu de débordement notable. La différence, c'est que depuis une semaine, la réforme est passée avec le 49-3. Depuis son annonce, des manifestants se sont rassemblés spontanément, la première fois à Place de la Concorde, à Paris et ailleurs en France, sans organisation syndicale, sans trajet précis. Et à partir de là, la situation a commencé à se tendre de plus en plus. Et c'est d'ailleurs ce que note le service du renseignement territorial. Le recours au 49-3 est donc une des causes de ces montées en tension des manifestants.
Et alors, comment les forces de l'ordre font-elles face?
Eh bien, elles s'adaptent à la configuration de la manifestation. Par exemple, le maintien de l'ordre ne va pas être le même dans les Deux-Sèvres, comme ce samedi, qu'en plein Paris ou en plein Rennes. Si l'on prend l'exemple de Sainte-Soline ce week-end, on a pu voir que les gendarmes mobiles sont majoritairement restés sur un point fixe pour défendre la bassine. En octobre dernier, c'était assez différent. Les gendarmes étaient présents au bord des routes, dans les champs environnants. Ils se déplaçaient pour repousser les manifestants, aller au contact. Ce sont des techniques de maintien de l'ordre différentes qui permettent de s'adapter. De même, ils ont différentes armes de défense en fonction du niveau de tension, comme les gaz lacrymogènes, les LBD ou les grenades assourdissantes qui explosent avec beaucoup de décibels et figent la situation.
Maxime, depuis quelques jours, il y a eu des centaines d'interpellations. Pour quelle suite?
Mais deux simplement à Sainte-Soline.
Deux simplement à Sainte-Soline.
C'est ça qui étonne, j'imagine, les gens qui nous écoutent, qui ont vu les images d'une très grande violence. Deux interpellations simplement.
Alors, pour revenir sur Sainte-Soline très rapidement, ça peut être dû au dispositif de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que comme il n'y a pas eu de charge, etc., les manifestants n'ont pas pu être forcément arrêtés tout de suite pendant que les violences éclataient en plein milieu. Et pour revenir sur les suites judiciaires, il est vrai que ces dernières semaines, une majorité de personnes placées en garde à vue ont été relâchées sans poursuite, notamment pour des infractions insuffisamment caractérisées, parce que les personnes se trouvaient au sein d'un groupe, mais qu'il a été impossible de prouver sa participation à un acte violent. Les autres ont été déférés pour la plupart devant le juge en procédure accélérée, en comparution immédiate. Par exemple, un homme de 30 ans a été condamné à 3 ans de prison ferme mercredi dernier par le tribunal de Besançon pour avoir frappé un policier avec un skateboard.
Merci beaucoup Maxime Lévy du service police-justice d'RTL.
Et dans un instant, on va revenir sur le Grand Prix RTL Lire décerné ce matin à Gaël Nohant pour le bureau d'éclaircissement des destins. A tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi et nous revenons donc avec vous, Bernard Lehu, sur l'événement du jour, l'attribution ce matin du Grand Prix RTL Lire 2023 au roman de Gaël au féminin Nohant, Le bureau d'éclaircissement des destins.
Et le titre vous dit peut-être quelque chose, chers auditeurs, puisque vous nous aviez conseillé dans RTL Midi, dès sa parution en janvier, ce roman, Bernard, qui s'inspire d'une institution unique au monde.
Mais oui, ce bureau d'éclaircissement des destins, il existe, et sous cette magnifique appellation d'ailleurs, il s'agit du plus grand centre d'archives sur les persécutions aux nazis, situé en Allemagne. Il abrite 30 millions de documents, et l'une de ses missions consiste à identifier les propriétaires des objets retrouvés à la libération des camps et de les restitués à leurs descendants. On suit l'héroïne imaginée par Gaël Nohant, Irène, employée de ce service, qui va mener 3 enquêtes parallèles à partir d'une poupée, d'un médaillon et d'un mouchoir brodé, et tenter de remonter jusqu'aux familles des victimes. C'est bouleversant, bien sûr, et puis ça se lit comme autant de polars.
Et ce qui est intéressant, c'est que le Grand Prix RTL Lire est un prix de lecteurs. Ils étaient 100 répartis dans 20 librairies partout en France. Donnons-leur leur
parole. Oui, ici, c'est ce qu'on fait ici, chez vous, Pascal Praud. Alors, on va les écouter, mais j'ai d'abord demandé à Baptiste Liget, directeur de notre partenaire, le magazine Lire, de nous dire ce qui fait le talent de la romancière Gaëlle Nohant, qui en est à son 5e livre, mais que le grand public ne connaît pas encore forcément très bien.
C'est vraiment cette capacité à nous faire retrouver des pans de l'histoire qu'on connaît et de vraiment nous incarner, nous plonger dans cette période grâce à des personnages forts et un certain sens du feuilletonesque qui est vraiment héritier d'une certaine littérature française populaire du 19e. Elle l'adapte parfaitement et c'est ça qui, je crois, fait sa singularité et qui fait qu'elle plaît à un très large public et surtout à un public extrêmement varié avec des lecteurs, des goûts très éclectiques. Voilà ce qui fait sa force aujourd'hui.
Alors, la parole maintenant aux lectrices et aux lecteurs. Et l'impression dominante, c'est l'émotion, bien sûr, qui émerge de ce livre, comme pour Yves Defago, membre du jury de la librairie Sorams à Alès.
De l'émotion. C'est le contraire vraiment d'un page-turner, ce livre. On a envie de faire une pause après chaque chapitre pour laisser vivre en nous les moments, les âmes fortes évoquées par la romancière. Et c'est cela qui m'a incité à choisir ce livre. Là, actuellement, c'est ma compagne qui est en train de le lire parce que j'en ai fait la promotion autour de moi.
Alors, Régis Kérol, également à la librairie Sorams, a été sensible aux propos généreux du livre.
Le sujet est extraordinaire. Refaire l'histoire des objets pour trouver des gens au bout, c'est complètement généreux puisque ça ne sert à rien, sauf à dire à des gens que votre grand-père ou votre arrière-grand-père possédait, par exemple, ce petit ours ou cet objet. Et ça, c'est le travail est formidable. Il y a beaucoup d'humanité et puis bon, le fait qu'elle y mêle l'histoire personnelle, son aventure avec l'intellectuel allemand, ne fait pas ombrage à la qualité du roman.
Alors, ce personnage, justement, d'Irène, créé par Gaëlle Nohant et que vient d'évoquer Régis, a beaucoup touché Dominique Minart, juré, lui, à la librairie Mots en marge de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine.
Ce que j'ai trouvé vraiment formidable dans ce livre, c'est la ténacité d'Irène, son humanité. Et je crois que grâce au style lumineux et simplifié de Gaëlle Nohant, on a l'impression d'être vraiment à côté de Irène, l'héroïne, en train, nous-mêmes, de discuter avec les descendants. Et ça, c'est une grande force de la qualité de l'écriture. Et on partage toutes les émotions avec les descendants et les familles, en se posant toujours la question, est-ce que ces familles vont accepter aussi longtemps après cet héritage et aussi tout ce que cela implique comme bouleversement dans leur mémoire et dans leur vie.
Bernard, ce roman, il s'inscrit dans un contexte particulier, douloureux, la barbarie nazie, ses victimes. Est-ce que ça ne donne pas une lecture un peu sombre à tout ça ?
Au contraire, nous répond Magali Tournadre du jury de la librairie À la ligne de Lorient.
Moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que c'est un roman qui m'a donné de l'espoir, en tout cas. Et je la remercie pour ça, parce que les questions de la solidarité, du collectif, de fraternité, de personnes qui ont sacrifié leur vie, comme le personnage de Vita, pour ce petit enfant qui est seul, et elle va avec lui jusqu'au bout. Il y a quelque chose, pour moi, de l'ordre de l'abnégation et d'un intérêt au-delà de soi, en fait. Et je trouve que là, notre société, actuellement, moi, là, me fait un peu peur parce qu'elle ne voit un peu que son nombril et là j'ai trouvé autre chose en fait.
François Thiollier, lui, du jury de la librairie Durance à Nantes, que vous connaissez bien Pascal, et bien comme beaucoup d'autres lecteurs, est impressionné par le travail de documentation de Gaëlle Nohant.
Et la dominante, pour moi, c'est la qualité, le volume de recherche de l'autrice, hein, et la manière dont elle fait sa relation de cette recherche, c'est-à-dire ce qu'elle en fait. Si je lis peu de romans, simplement, c'est que je trouve que c'est si dans la forme, ça peut être excellent, il n'y a jamais beaucoup de fond, alors que dans son bouquin, il y a matière à réflexion. Donc, elle a travaillé et elle joint l'affectif adroitement, sans en faire trop, c'est excellent.
Allez, le mot de la fin, Martine Cabin, de la librairie L'Armitière à Rouen.
Tout le monde devrait lire ce roman, aussi bien les lycéens que les adultes. Hein. Je l'ai conseillé à nombreux amis autour de moi. Je pense que les enseignants devraient se plonger dans ce livre et lire au moins des extraits aux collégiens. Et les lycéens devraient le lire, hein, bien sûr, entièrement.
Voilà, un livre pour tous, Le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohant, Grand Prix RTL Lire 2023, publié chez Grasset.
Merci Bernard, et si vous voulez écouter la lauréate, la romancière, vous pouvez retrouver son interview sur l'application RTL, elle était l'invitée ce matin d'Yves Calvi.
Dans quelques instants, c'est vous qui prenez la parole, on va évidemment beaucoup parler de Sainte-Soline, à tout de suite.
Votre avis compte,
venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
Le meilleur RTL.
Il est 13h02.
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je vois que le Louvre est fermé d'ailleurs. Blocage en cours contre la réforme des retraites. Ça se passe en ce moment et en direct. Nous sommes avec Charles. Bonjour Charles.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes le premier auditeur. Vous êtes agriculteur, je crois.
Oui, Pascal.
Et vous n'étiez pas présent à Sainte-Soline.
Ah non, je ne vous cache pas, même mon effarement de tout ce qu'on a pu voir à la télé, notamment sur toutes les actions qu'il y a eu, je suis effaré. Oui.
Et bien, vous aurez la parole dans une seconde, mais le rappel des titres avec Céline.
Et avec ce déjeuner, cette rencontre entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron et les cadres de la majorité, pour évoquer la sortie de crise en pleine bataille contre la réforme des retraites à la veille de l'acte 10 de la mobilisation contre cette réforme des retraites. Les perturbations s'annoncent une fois encore importantes, notamment dans les transports, dans l'éducation également, avec 30% de grévistes annoncés dans les écoles primaires par les syndicats. En attendant, la grève se poursuit notamment dans les raffineries. 15% des stations-service sont aujourd'hui touchées par des pénuries de carburant. C'est principalement le cas dans le nord-ouest et le sud-est du pays. Grève générale surprise en Israël aussi aujourd'hui. Cette fois, il n'est pas question de retraite, mais de la réforme de la justice prônée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui souhaite donner plus de pouvoir aux élus face aux juges. Et puis un mot de football avec la suite des éliminatoires pour l'Euro 2024. Ce soir, les Bleus se déplacent en Irlande. Coup d'envoi à 20h45 et rencontre à vivre évidemment sur RTL. La météo avec vous, Peggy Broche, si le climat social est agité, c'est plus calme quand on regarde le ciel.
Oui, c'est vrai que ça se calme aujourd'hui, donc un temps plus apaisé avec ce qu'on appelle un ciel de traîne, donc alternance de nuages, d'éclaircies, avec des endroits où on a un peu plus d'éclaircies que la veille ou que ce matin, et encore quelques gouttes, alors pas grand-chose, mais c'est vrai que globalement sur un quart nord-est, on a encore quelques gouttes, également au sud de la Garonne ou entre la Bretagne et le Cotentin. On a quelques flocons également à basse altitude sur les reliefs de l'est, et attention au risque d'avalanche sur les Alpes du Nord qui est assez fort puisqu'il a beaucoup neigé la nuit dernière. On a aussi un peu de neige sur les Pyrénées mais dès 1400 mètres. En revanche, c'est très beau entre la Méditerranée et la Corse, du très beau soleil avec encore du vent, rien à voir avec ces dernières 24 heures, mais ça souffle encore entre 60 et 80 km/h. Tout ça sous des températures qui sont en baisse, hein, et un peu fraîches par endroit pour la saison avec 7 degrés à Langres, 9 cet après-midi à Clermont-Ferrand, 10 au Havre, 11 à Nevers, 12 à Paris et Tours, 14 degrés à Nantes et Biarritz, 16 à Toulouse, ainsi qu'à Bordeaux, 18 à Perpignan, 19 à Nice et 20 à Bastia.
Et demain, Peggy ?
Une France coupée en deux avec un ciel bien laiteux, bien voilé sur le nord, au nord d'une ligne Grenoble-Bordeaux. Sur les bords de Manche, on a pas mal de nuages et quelques pluies, quelques faibles pluies plus tôt dans l'après-midi. Il y a peu d'évolution hein, entre l'après-midi et le matin. Ça restera laiteux au nord et c'est bien ensoleillé dans le sud, sur toute la moitié sud, avec des températures alors qu'ils sont froides demain matin. Elles sont en nette baisse. On a quelques petites gelées même sur l'est, 2 à 6 degrés ailleurs. Et dans l'après-midi, elles vont remonter, même si les maximales seront parfois un peu juste. On a 10 degrés demain prévu à Metz, mais ça ira jusqu'à 16 du côté de Rennes. Et dans le sud, 16 à 22 degrés. On a même de la bonne douceur du côté de Biarritz avec 24 dans l'après-midi.
Merci Peggy.
Merci Peggy, merci Céline, merci Arnaud Mulpa qui était à la rédaction chef de ce 12-13. Et nous allons partir ensemble avec les auditeurs comme nous le faisons tous les jours. C'est lundi, on est ensemble jusqu'à vendredi et ensemble également jusqu'à 14h30.